On me demande souvent, c'est quoi l'entrepreneuriat ? Bah pour ça, quoi de mieux que de demander l'avis à d'autres entrepreneurs ? Pour cette deuxième saison du podcast « Mes premières fois dans l'entrepreneuriat », vous allez découvrir sans tabou et avec authenticité les vraies coulisses des entrepreneurs qui se battent pour faire exister leur entreprise. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! Et avant de démarrer, les amis, si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur. Merci d'avance, c'est parti pour l'épisode. Hello à toutes et hello à tous. Je suis aujourd'hui très heureux. Pourquoi ? Bah comme chaque fois où j'accueille justement un nouvel invité ou une nouvelle invitée. Là, en l'occurrence, c'est Jean-Baptiste Baron que je vais accueillir. Jean-Baptiste Baron, c'est qui ? Bah, c'est un consultant justement en gestion du temps, pour dirigeants notamment et indépendants. Je suis très heureux justement que tu aies accepté cette invitation, Jean-Baptiste. Salut, merci à toi d'être là. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et présenter un petit peu ton activité ?
Bonjour Alexandre, merci de m'avoir invité, c'est très cool. Voilà, ça c'est la partie cucu qu'on peut mettre tout de suite de côté. Tu l'as très bien dit, je suis consultant en gestion du temps et en organisation pour les dirigeants et les indépendants. Qui sont submergés. Mon boulot, c'est de faire en sorte qu'ils arrêtent d'être submergés, de les remettre sur un surf pour tout le reste de leur vie. C'est un assez gros défi, mais je vais utiliser trois clés principales. La première, c'est celle des objectifs. D'ailleurs, on va regarder tout ce qui va venir polluer les objectifs de notre quotidien et qui nous en éloigne. La deuxième, c'est de regarder les moyens qu'on met en œuvre pour aller chercher les résultats qu'on veut. Tu sais, c'est cette petite phrase qu'on connaît. Faire encore et toujours la même chose en attendant un résultat différent, c'est ce qui se rapproche le plus de la folie. C'est pas d'Einstein, mais c'est exactement l'application de cette phrase-là derrière la question des moyens. Et puis la troisième clé, c'est la connaissance de soi, c'est-à-dire se connaître suffisamment pour justement savoir pour quelles raisons on a mis en place ces moyens-là, pour quelles raisons on poursuit ces objectifs. Et quand on se connaît mieux, on comprend les freins qui nous animent, les moteurs qui nous animent aussi. Et en essayant de brider un peu plus nos freins et en augmentant l'amplitude de nos moteurs, on arrive à faire des choses extraordinaires. Et c'est ce que je fais avec chacun de mes clients.
Bonne présentation. J'aime beaucoup, justement, pour en savoir un petit peu plus comment t'accompagnes ces dirigeants ou ces indépendants. Demain, moi, Alexandre Ferrero, je suis dirigeant d'entreprise. J'ai entendu parler de toi. J'ai besoin, justement, d'un accompagnement. Comment ça se passe ? C'est sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Comment tu fais, justement, pour me débloquer un petit peu au niveau de mes freins et faire en sorte d'avoir un moteur profond pour améliorer mon quotidien ?
La méthode principale, c'est que je te fais parler. On se voit une heure par semaine. Et je te fais parler. Quand tu me réponds, j'entends des choses dans le sous-texte que je te reformule pour que tu puisses voir ces choses-là d'une autre manière que le nez dans le guidon. Et comme on voit de nouvelles choses, on peut formuler des hypothèses de travail à partir desquelles on va pouvoir mettre en profondeur les changements dont tu as besoin pour être mieux organisé si c'est ton sujet, pour avoir plus de temps pour ta famille si c'est ton sujet, pour avoir plus de temps pour tes collaborateurs si c'est ton sujet. Pour aller au résultat que tu cherches, mais que tu n'es pas réussi à aller trouver toi-même.
Ok, intéressant, vous l'avez entendu. Donc si vous avez justement envie de faire appel à Jean-Baptiste, présent sur LinkedIn notamment, Jean-Baptiste Baron, B-A-R-O-N, que je recommande, tout comme ton e-book d'ailleurs que j'ai lu, on y reviendra tout à l'heure dans une des premières fois qu'on va aborder, que j'ai beaucoup apprécié par rapport à beaucoup de thématiques qui sont abordées, des trucs récurrents qu'on voit, mais je pense que justement pour changer un petit peu ses habitudes, c'est important de mettre en avant et d'accentuer certains points, on va y revenir tout à l'heure. Du coup, on va commencer avec toi cette première fois pour retracer un peu ce parcours entrepreneurial aujourd'hui que tu vas dessiner avec moi. La première cliente qui ne t'a pas payé, c'est pas forcément quelque chose de très sexy cette première fois, mais quand on est entrepreneur, justement, le nerf de la guerre, c'est l'argent, c'est d'aller chercher aussi des clients, même s'il faut pas se focusser uniquement sur l'argent, mais plutôt sur la valeur qu'on va délivrer aux gens. Comment ça s'est passé ? Comment tu as vécu les choses de l'intérieur ? Est-ce que ça a été compliqué pour toi ? Est-ce que tu t'y attendais ? Dis-nous-en un peu plus.
Ouais, alors évidemment, je m'y attendais pas du tout. Ce qui est très rigolo, c'est que c'était à la fois la première fois qu'un client ne m'a pas payé jusqu'au bout, et c'était aussi ma première cliente. Donc il y a un petit effet boule de neige. Mais l'idée, c'est que comme c'était à l'époque où je formais encore mon offre, j'étais pas du tout à l'aise avec l'idée de demander à quelqu'un de me payer rubis sur l'ongle dès l'entrée de l'accompagnement, chose que je fais systématiquement aujourd'hui maintenant. Et on s'était mis d'accord sur un premier paiement à l'entrée et puis un deuxième paiement à la sortie. Alors on pourrait se dire, ouais, peut-être que le deuxième paiement à la sortie, il n'était pas justifié parce que j'étais pas au résultat. Et ben si, on était au résultat. Le fait est que cette personne, elle était débordée dans la préparation de la validation de son Calliope. Donc c'est quand même quelque chose que quand on passe la certification Calliope, on sait que ça demande un peu plus que juste 3 minutes sur un coin de table. On a pu aborder tout un comment dire tout ce qu'il y avait derrière la problématique de l'organisation autour de Calliope. Elle a passé le Calliope et elle ne m'a pas payé le deuxième bout. Donc évidemment, j'étais très fâché parce que le contrat moral, au-delà du contrat papier qu'on signe, le contrat moral, il a pas été respecté. Et je l'ai presque vécu comme une forme de faiblesse à mon égard, dans le sens où, attends, j'ai voulu faire confiance à cette nana, on a identifié un problème qui était très clair et pour lequel j'étais absolument convaincu que j'allais pouvoir l'aider. Preuve en est, je l'ai aidé jusqu'au bout. Et pourtant, j'ai loupé une marche. Enfin, tu vois, c'était presque plus un reproche vis-à-vis de moi-même que vis-à-vis d'elle. Alors, je pense que tout le monde à ce moment-là se dit bon, ok, je vais laisser une deuxième chance, je vais la relancer une deuxième fois, etc., etc. Mais je suis allé au bout de l'histoire, c'est-à-dire que j'ai saisi un huissier à l'endroit où elle habitait pour savoir ce qui s'était passé. Et l'huissier a suivi toute la procédure de relance, de je vais au domicile, de je vais saisir le juge pour que le juge voit bien que tout avait été fait en temps et en heure, etc., etc., jusqu'à ce que le juge donne une instance pour prélever les fonds sur le compte. Et il y avait rien sur le compte.
Il y avait rien sur le compte. Et comment ça se passe quand c'est comme ça, justement? C'est-à-dire toute la procédure, ça n'a abouti à rien parce qu'il y a rien sur le compte, ou ils vont essayer de justement faire en sorte qu'elle fasse des prélèvements automatiques? Comment ça se passe à ce niveau-là?
Là, en fait, l'option qui me restait, c'était de dire je valide la dépense pour séquestre. C'est-à-dire qu'on demande à un serrurier d'ouvrir le domicile et l'huissier a le droit de saisir ce qu'il veut dans la maison pour payer ce qui reste. Et j'avais pas le cœur d'aller jusque-là, donc j'ai laissé tomber. Mais j'aurais été en droit de le faire. Mais le truc, c'est que bon, pour la dépense que ça représentait versus ce qu'il fallait payer, ça avait du sens de demander à l'huissier d'intervenir. Ça n'en avait plus de foutre sa vie en l'air, quoi.
Ouais, tu n'avais pas forcément envie d'aller jusqu'au bout. Enfin, d'aller jusqu'au bout, si tu y as été, mais en tout cas de faire en sorte de lui piquer des choses de l'intérieur, de chez elle, de la maison. Parce que t'es quand même un entrepreneur avec du bon sens aussi, ce qu'elle n'a peut-être pas eu justement en ne te payant pas cette deuxième partie. Est-ce que tu peux nous donner un peu une idée, une fourchette, quand tu fais appel à un huissier, ce que ça peut coûter, ce que ça peut représenter? Parce qu'on dit souvent justement, je vais faire appel à quelqu'un au niveau du juridique qui va justement encadrer tout ça. Un huissier, combien ça coûte en général dans ce genre d'affaires?
Là, j'ai dû dépenser quelque chose de l'ordre de 600 euros.
Okay.
Sachant que, pour une raison qui m'échappe, J'ai fait appel certainement à quelque chose de beaucoup trop onéreux par rapport à ce que sont des gens qui font du recouvrement. Il y a des entreprises qui ont des services de recouvrement en interne, mais il y a aussi des prestataires de recouvrement en prestation de services qui font ça très bien. Et je pense que, alors évidemment, il y a moins de chances que ça fonctionne par rapport à un huissier qui fait toute la procédure jusqu'au bout avec une décision de justice. Mais un recouvreur de fonds, justement, il va t'extraire complètement de la partie émotionnelle pour faire le boulot d'aller chercher les fonds et en tout cas de trouver une médiation avec ton client, ce qu'un huissier ne fait pas forcément. Dans tous les cas, ce qu'il faut entendre, c'est que oui, c'est aussi un coût, mais c'est surtout un coût d'investissement. C'est-à-dire, ok, quand je mets 600 euros pour aller en récupérer plusieurs milliers, bah ça vaut le coup, et le chargé de recouvrement a la même logique. C'est, lui, il va se payer par rapport à une part de ce qu'il va te récupérer chez le client. Donc c'est une forme d'investissement, mais c'est une manière de dire je ne m'assois pas sur ce qui a été impayé, je vais en dépenser une partie pour aller chercher le reste. Okay. Et c'est quand même pas anodin.
Ouais, c'est clair que c'est pas anodin. Le conseil que tu donnerais justement à une personne qui nous écoute, qui serait susceptible de rencontrer ce genre de situation, comment faire pour justement se protéger par rapport à ce genre de client qui du jour au lendemain peut ne pas payer, du jour au lendemain peut te bloquer aussi, on va y revenir tout à l'heure. C'est quoi le conseil que tu donnerais?
Dans tous les cas, avoir des contrats signés. Un contrat non signé, c'est aucune preuve à avancer devant un tribunal, c'est aucune garantie de quoi que ce soit. Enfin, le juge, il se pose même pas la question. Il n'y a pas de papier signé, il n'y a rien à faire. Donc, si déjà vous commencez une collaboration avec un contrat signé, même si le mec ne paye pas, il va être obligé d'aller se justifier à un moment donné devant un juge. Donc, ça l'emmerde un petit peu. Et s'il ne va pas devant le juge se justifier, le juge te donnera toujours raison à toi et tort à lui. Donc, dans tous les cas, c'est payant. Alors évidemment, quand c'est des sommes de moins d'une centaine d'euros, ça n'a pas beaucoup de sens de faire un contrat. Mais dans de la prestation de service, comme je fais moi à plusieurs milliers d'euros, un contrat, c'est évident. Et ensuite, ne surtout pas hésiter à faire appel, encore une fois, à des recouvrements, à des chargés de recouvrement ou à des huissiers selon les montants. Et savoir où est-ce qu'on trace la limite entre non, je continue de cet investissement pour aller chercher les fonds que je veux ou non, ça n'a plus aucun sens parce que le déséquilibre est trop grand.
Ok, merci pour ces conseils et surtout d'avoir évoqué avec nous cette première fois, pas forcément très, très chouette, mais en tout cas, je pense que c'est comme ça aussi qu'on en tire de leçons par rapport aux autres clients avec qui tu as pu travailler notamment.
Absolument.
Et on va y venir avec cette deuxième première fois. Bon, décidément, non, on va parler du coup du premier client qui t'a bloqué. Donc, c'est pas encore très chouette de parler de ça. Mais l'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, justement, si tu nous peux nous parler un peu de cette situation. Tu travailles avec cette personne-là, de ce que j'ai cru comprendre, et du jour au lendemain, elle te bloque.
C'est pas exactement du jour au lendemain. Donc, cette personne me sollicite en rendez-vous. Donc, ok, très bien, qu'est-ce qui se passe? En quoi je peux vous aider? Ah, bah voilà, j'ai telle problématique. Je vais pas aller beaucoup plus loin dans le détail de ce que je fais avec mes clients parce que c'est. Bref, elle m'explique sa situation. Je lui dis, bah voilà, ok, moi je peux vous amener jusqu'à telle destination. Voilà comment on va faire, etc. Voilà la tarification que je vous propose. Est-ce que ça vous convient? Oui, ça me convient, très bien. Hop, on signe le contrat, tatata. Je lui envoie ma facture et par souci d'embrayage, je lui propose que nous fassions notre première séance. Allez, peut-être la veille avant le jour où je pense que les fonds vont arriver sur mon compte. Et puis bon, bah, comme je suis un mec gentil, je me dis, je vais pas perdre une semaine de l'attendre, on va commencer immédiatement. Voilà. Et puis, ok, donc elle se présente au rendez-vous, on bosse. Et dès le premier rendez-vous, ok, je mets le doigt sur un truc qui est pas mal, quoi. Je me dis, ok, on va creuser ce sujet-là. Et elle repart toute contente. La semaine d'après, je me pointe et elle ne vient pas. Je me dis, bon, ok, c'est pas grave. Deuxième séance, elle ne vient pas. Bon, c'est pas grave, je vais lui passer un petit coup de fil, parce que des fois, bon, tu sais, ok, on se voit à 14h, à 14h05, je vois que t'es pas là, je t'appelle, hey, tu arrives, ouais, c'est bon, j'arrive, ok. Bon, voilà, 14h05, et je tombe sur sa messagerie. Bon, ben voilà, bonjour, vous êtes là, on est en rendez-vous, etc. Bon, ok, pas de nouvelles. Je vais voir sur LinkedIn, je la trouve pas. Et donc, je comprends qu'elle m'a bloqué. Et donc, évidemment, elle ne m'a pas payé. Parce que ce serait très con, mais elle s'est servie. Enfin, moi, je traduis en elle s'est servie de la première bonne idée de la première séance pour se dire ok, je vais faire le taf toute seule et j'ai pas besoin de le payer. Évidemment, j'ose espérer que elle aura réussi à faire le boulot toute seule avec la seule première idée qu'on a eue. Mais en vrai, je pense que c'est pas suffisant.
Surtout qu'elle t'a sollicité pour un accompagnement sur plusieurs semaines de ce que tu nous as expliqué tout à l'heure. Donc,
exactement.
Je pense que t'as peut-être mis le doigt sur un truc et effectivement, il y a peut-être eu un déclic en elle. Elle s'est dit, waouh, super, là, Jean-Baptiste, il vient de toucher à quelque chose. Ok, j'avais pas pensé à ça. Bon, admettons. Mais il y a quand même un côté malsain, justement, dans l'approche. C'est-à-dire que tu pars sur un engagement avec une personne sur plusieurs semaines. Et puis là, la moindre bonne idée, j'ai envie de dire. Alors après, ça te fait poser des questions. Tu te dis, bah tiens, je vais éviter d'être trop bon et trop performant la première séance. Mais non, tu t'en fous. Ton métier, c'est vraiment d'assurer avec tes clients à toutes les séances. Pareil que tout à l'heure, question pour justement sensibiliser les gens qui nous écoutent, comment on fait pour éviter ça? Tu avais signé un contrat, je crois, c'est juste que tu attendais les fonds. C'est quoi qu'on peut mettre en place pour éviter que ça se représente?
Là, l'erreur que j'ai faite, même si je ne l'avais pas du tout vu comme ça au début, c'était de me dire, bah, ok, voilà, le contrat, il est signé, on s'en fout, on y va. Alors que j'aurais eu intérêt à dire bon, j'attends que les fonds soient là avant qu'on fasse la première séance. Pour moi, c'était un détail parce que justement le contrat valait cet engagement. Mais preuve en est que non. Et le plus fou, c'est que il peut arriver à certains prestataires de services, encore une fois, qui se disent ok, c'est bon, j'ai le contrat signé, ok, c'est bon, j'ai les fonds sur mon compte, mais qu'au bout d'une séance ou deux, la personne vous dise ah ben non, en fait, ça m'intéresse plus, remboursez-moi. Et vous faites quoi dans ces moments-là?
C'est une vraie interrogation. Et quand tu as un client qui est déterminé justement à te dire qu'il n'est pas satisfait de ton travail et que tu ne lui apportes pas la valeur ajoutée pour laquelle il a justement signé ce contrat, c'est un vrai problème et le client peut se retourner justement contre nous.
Donc ouais, mais c'est surtout quand il le fait au bout d'une ou deux séances, qu'il le fasse à la fin d'une quinzaine de séances où il y a de quoi argumenter que si, il y a eu du résultat, il y a eu de l'évolution, etc. C'est faisable, mais au bout de deux séances, c'est pas possible.
Au bout de deux séances, en général, tu l'as dans l'os, dans le sens où bah, tu es un peu obligé de procéder justement au remboursement. Comment tu as fait justement avec cette cliente-là ? Tu as été au bout, pareil, d'une procédure ? Tu as réussi à quand même avoir quelque chose ?
Bah, vu que j'avais pas fait tellement grand-chose avec elle, j'ai pris sur moi de laisser tomber. Le plus con, mais là, c'est vraiment entre toi et moi, Alexandre. C'est que...
Vas-y, il n'y a personne qui nous écoute.
Il n'y a personne qui nous écoute. Elle avait laissé son adresse personnelle sur le contrat.
Okay.
Donc, comme elle habite à moins de 100 km de chez moi, j'aurais tout à fait pu prendre ma bagnole pour aller la voir et lui demander des explications, mais je pense que ça ne serait pas très bien terminé.
Je ne sais pas si elle t'aurait ouvert déjà, mais...
Non, c'est sûr, non. Non, mais voilà, il y a une forme de cohérence à aller chercher aussi.
Ouais, complètement. Puis il ne faut pas dépenser son énergie sur des choses qui déjà nous en prennent par rapport à ça. Tu as quand même fait une séance, tu as quand même préparé les choses. Je pense que tu es quelqu'un qui fait les choses avec rigueur et avec envie et passion aussi. Donc après, il faut essayer de faire abstraction de ça. Mais c'est dur parce que quand tu as envie justement d'entreprendre, c'est pour changer un petit peu les choses, c'est d'adapter plutôt ton monde de l'entrepreneuriat à ta sauce pour faire en sorte d'aider les gens. Et même si aujourd'hui on est là pour remplir le frigo aussi, mais quand je dis aider les gens, c'est être impactant. En tout cas, pour te suivre sur LinkedIn, je sais que c'est quelque chose qui tient à cœur. Donc c'est dur quand ça arrive, quand tu as justement ce premier client qui ne paye pas, là ce client qui te bloque. Bon, on est en train de se dire, Jean-Baptiste, avec les clients, c'est un peu compliqué, mais non, ça fonctionne quand même.
Non, ça fait partie du jeu, et justement, tu l'as dit, là, mon calcul, il a été de dire, ouais, ok, d'accord, j'ai préparé le truc, ouais, ok, j'y ai consacré une séance, mais elle te dit, justement, cette personne, que tu n'as pas intérêt à consacrer beaucoup plus de temps ou beaucoup plus d'énergie pour rien. Donc, mon truc, ça a été de dire, ok, j'avale la couleuvre et je ferme le dossier, parce que sinon, je vais y passer trop de temps pour rien du tout. Et là, c'est un peu ma recommandation aux gens qui peuvent être dans de telles situations-là où, ok, ils ont tout bordé, mais il y a quand même un truc qui sort du lot. Bah, mesurez ce que ça veut dire en termes d'implication d'énergie et de temps que de continuer à courir après un lièvre que vous attraperez jamais.
Ouais, hyper important d'accepter justement le déconvenu, d'accepter un petit peu le fait que, bah, ok, ça marchera pas avec lui, on passe à autre chose, on essaie. C'est dur à avaler parfois, mais au moins. Ça permet justement de passer à autre chose et pas de rester focus sur quelque chose qui nous boufferait justement sur le long terme. Ok, on va aborder une troisième première fois avec toi et j'aime beaucoup cette troisième première fois. Quand on ouvre les réseaux sociaux aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On a l'impression que l'entrepreneuriat, c'est easy, c'est les doigts dans le nez, finger in the nose. On arrive avec 10 000 euros par mois au bout de 3 mois en mangeant du quinoa et en faisant une méditation en kilt. j'aime bien dire ça.
Et... kilt non offert.
Exactement. Ça, c'est en option justement après avoir téléchargé la troisième formation payante, évidemment. Ma question, c'est... Enfin non, on va déjà parler de ta première fois avant de te poser la question, mais là, on va parler de la première fois du coup que tu as compris que l'entrepreneuriat, c'était pas simple, c'était pas facile. Ta perception justement pour ça, comment a été cette première fois pour toi ? Et par rapport à ce que je viens de dire aussi, ton avis sur ce qui se fait aujourd'hui sur le réseau, ton ressenti ?
Alors, ce qui est très rigolo, c'est que je suis pas du tout arrivé sur LinkedIn à l'époque où on voyait des posts à SMIC à 10 000. Il y avait encore un côté très corporate où on disait que c'était encore la plateforme des CV et je m'enorgueillis un petit peu quand même de faire partie de cette génération de LinkedIniens d'avoir posté des choses qui avaient rien à voir avec le CV mais plus des prises de position sur les métiers qu'on faisait sur ce genre de choses et donc oui, j'ai vu de l'intérieur un peu ce que c'était que de passer d'un monde de passionnés à un monde dépassionnant. Voilà, petit jeu de mots, mais où y a cette espèce de notion de course à l'échalote où « Ouais, toi, t'as fait 10 000, moi, j'ai fait 12 000. Ah ouais, non, mais regardez, moi, j'ai fait 15 000 en faisant des pompes sur les index. » Ok, d'accord. Et donc, il y a ce côté « Comment est-ce que je me protège à la fois mentalement de ces choses-là et comment est-ce que je maintiens le cap que je me suis donné au départ ?» Et je le dis pas dans un sens je me jette des roses à dire que j'apporte de la valeur tous les jours, si c'était le cas ça se saurait, mais
et moi je le dis, t'apportes de la valeur.
Non mais voilà, il y a une volonté d'apporter de la valeur de la part de chacun, mais sauf que chacun n'entend pas non plus nécessairement ce que valeur veut dire aux yeux de ses lecteurs et aux yeux de son audience. C'est là où je voulais en venir. Bon, et donc c'est à ce moment-là où je me suis dit, c'est quand même rigolo de voir que bah, moi, je carafe bien, c'est-à-dire, ok, je suis content parce que je vais servir des clients, Mais il s'agit jamais de dire ouais le 25 du mois je suis à l'aise, tu vois. Et je dois et j'ai envie de bosser tous les jours pour aller chercher de nouveaux clients, pour continuer à entretenir la valeur que j'apporte, etc., etc. Et je ne peux pas, je ne peux pas me laisser polluer par les gens qui disent ouais, regardez-moi, en trois claquements de doigts, boum, j'ai des formations qui tombent dans tous les sens et je suis le roi du pétrole et je vais bouffer à Dubaï. Et je suis pas du tout en train de dire que ces gens-là s'inventent une vie ou comment dire, vont volontairement toxicifier notre manière de faire. Mais je pense que quelqu'un de très extérieur à la plateforme qui se dit tiens, j'ai envie de devenir entrepreneur et je vais aller voir sur la plateforme comment ça se passe, il peut être très vite induit en erreur parce qu'il peut y lire, parce qu'il n'a pas le code. Tu sais, il n'a pas le dictionnaire LinkedInien qui lui permette de se dire, derrière ces gens-là qui ont visiblement réussi, il y a des gens qui vont raconter des cracks, mais il y a aussi des gens qui ont énormément bossé avant d'en arriver là, et on ne voit pas cette partie-là de l'iceberg.
Ouais, je suis d'accord avec toi sur ça. Je pense que tu le sais maintenant, toi aussi tu me suis un minimum. Le podcast Mes Premières Fois dans l'entrepreneuriat, il a été créé pour ça, justement. On arrive, je pense, nous, à faire un peu cette distinction entre ceux qui vendent un peu des paillettes ou autres. Et encore une fois, moi je suis comme toi, j'en vis pas ces gens et je suis pas en train de dire qu'ils inventent des choses. Mais voilà, il y a une certaine réalité à protéger quand même. Bien évidemment que tu peux gagner 10 000 euros par mois. Mais la première question déjà, c'est est-ce qu'on parle de chiffre d'affaires? Est-ce que déjà c'est la fiscalité? Parce qu'elle est différente en France et à Dubaï. Quand tu dis 10 000 euros, 200 000 euros, est-ce que tu es à Dubaï? Est-ce que tu es en France? Est-ce que tu es dans un autre pays? Ce n'est pas pareil. Aujourd'hui, moi, c'est des choses qui me révoltent un petit peu, qui me font hérisser un peu les poils et les cheveux de la tête que je n'ai plus. Mais comment on peut justement, par rapport à ce que tu viens de dire et ce qu'on vient d'échanger, comment on peut, nous qui avons les codes, peut-être, même si on est un peu, on fait abstraction de tout ça, mais comment on fait, quand je dis un petit jeune, mais après dans l'entrepreneuriat, tu peux avoir des gens qui sont en reconversion, ça peut être 30, 40 ans, comment on fait justement pour dire à cette personne qui n'a pas forcément les codes, voilà, fais gaffe à lui, fais gaffe à elle, pas forcément en disant, voilà, stigmatisant, il y a une personne ou deux, mais comment on fait pour se dire, voilà, quand on t'annonce des chiffres sans les détailler, c'est là où il faut se méfier. Est-ce que ça peut être ça, ce conseil-là aujourd'hui?
Ça peut être ça, et ça peut être aussi de se dire comment est-ce que je fais pour repérer les gens qui ont les mêmes valeurs que les miennes. Et quand je parle de valeurs, c'est pas ah oui, je suis là pour faire du fric, ou ah oui, je suis là que pour aider de manière caritative. Il y a beaucoup de nuances entre les deux. Et de se rappeler de ce que c'est que notre objectif. Je fais un rapprochement avec mon métier, mais à partir du moment où tu as déterminé ce que c'était que ton objectif, c'est beaucoup plus simple de choisir avec quels moyens tu veux y arriver. Et de mesurer les résultats que tu en tires. Si tu sais pas pourquoi tu veux être entrepreneur, bah déjà ça va être beaucoup plus compliqué. Et si malgré un objectif clair, tu utilises des moyens qui ne sont pas en corrélation avec cet objectif-là, tu sais que tu vas te planter. C'est-à-dire, si t'es là pour aider le maximum de gens et que tu te dis ouais, c'est en mettant des selfies de moi et en disant que j'ai fait 15 000 euros par mois, je pense pas que tu vas forcément aider grand monde. Tu vas susciter de l'intérêt ou tu vas susciter de la curiosité, mais tu ne vas pas aider de manière aussi pertinente que si tu te positionnes sur « voilà comment je peux vous aider et grâce à quoi je vais le faire ».
On confond beaucoup viralité, justement, avec ce selfie où tu dis les gros chiffres sans les détailler, et ce côté un peu post où tu vas du coup plus rentrer dans le détail, peut-être toucher moins de personnes, mais au moins on va être sur une communauté, ce qu'on appelle engagée, et des gens qui te suivent vraiment. Et je pense que le plus important par rapport à ce que tu dis, c'est délivrer de la valeur, c'est une chose. Après, il faut que chacun, justement, soit aligné avec ça aussi, et qu'il y ait un petit peu une envie, en tout cas, d'aller vers ces valeurs-là, mais d'être vraiment impactant. Impactant, je pense que c'est vraiment le bon terme pour donner envie, en tout cas, aux gens. Et je pense que ça part d'un premier moteur. Si aujourd'hui, ton moteur, c'est l'argent, justement, par rapport à ce que tu décris, je pense qu'on va droit dans le mur. On a tous besoin de remplir nos frigos, il n'y a aucun souci. Chacun a ses objectifs. C'est important d'être en clair avec ses objectifs. Mais je pense que le vrai moteur, c'est, je pense, en tout cas, tu me dis ce que t'en penses, toi, d'être en phase notamment avec la valeur qu'on va délivrer à nos clients et rien d'autre, à mon sens.
Et pour reboucler avec ce que tu disais tout à l'heure, à la valeur et à la transformation qu'on apporte dans le monde. Moi, le boulot que je fais aujourd'hui, il n'est pas juste parce que je suis doué dans ce que je fais, il est parce que c'est insupportable au XXIe siècle de se dire qu'il y a des gens qui n'ont pas le temps de vivre leur vie de famille, par exemple. C'est insupportable avec les moyens de production qu'on a aujourd'hui de se dire qu'il y a des dirigeants qui sont au bureau de 6h à minuit.
Ouais.
Ouais, ouais. Enfin, c'est des choses comme ça. Et oui, derrière, l'argent va venir, mais c'est d'abord, ok, on va traiter un vrai problème.
C'est insupportable d'entendre que, bah voilà, j'ai J'ai, en tant que fils, j'ai connu une bonne situation avec mes parents qui travaillaient beaucoup, mais j'ai jamais vu mes parents. Et tu te rends compte qu'il commence à apprendre ses parents, à connaître ses parents plutôt au bout de 20 ans, 30 ans. Enfin bref, c'est pour rebondir sur ce que tu dis, oui, c'est des vrais, vrais, vrais sujets. Et c'est là où tu te rends compte que tu es impactant. Donc toi, c'est quelque chose qui te passionne. C'est un vrai problème, c'est un vrai sujet pour justement faire prendre conscience aux gens que le temps et sa gestion, en tout cas, c'est important. Petite question pour moi, justement. Pourquoi, justement, tu gères cette partie-là? Pourquoi la gestion du temps? Pourquoi ça te prend aux tripes? Pourquoi tu fais des choses avec passion aujourd'hui sur ça? Pourquoi tu cherches à accompagner, justement, ces dirigeants? Ma question, elle est là, toute simple. Pourquoi?
Parce qu'il n'y a pas plus essentiel. Je te fais une réponse un peu philosophique, mais ceux qui n'ont pas le temps sont ceux qui sont morts. D'un point de vue extrêmement mathématique. Donc, quelqu'un qui te dit « j'ai pas le temps », ça veut dire qu'il est mort. Il n'est plus en train d'exercer son droit de vivant. Donc, c'est insupportable. Il est en train de subir. Et moi, je n'accepte pas, à titre perso, mais de manière... je ne peux pas être le témoin d'autant de gens et d'autant de vies sur Terre où les gens subissent leur existence. C'est pas possible. Enfin, moi, ça m'insupporte.
Moi aussi, et j'aime beaucoup ta mission. Et d'ailleurs, on va parler de cette quatrième première fois. On y arrive. Toujours avec un client. Toi, dans les originaux, j'ai l'impression que c'est un petit peu ton fond de commerce, entre guillemets, sur les premières fois.
J'aime bien.
Bon, là, on va parler d'un sujet quand même un peu délicat où, du coup, tu es avec un client. Je crois que c'est une cliente. Et ta cliente t'annonce, du coup, pendant que vous êtes en train de travailler, hein, donc tu es en cours de mission avec elle, qu'elle a un cancer, du coup. Ouais. Comment tu réagis? Comment on gère cette partie-là? Explique-nous.
Alors, si on est précis dans la chronologie, on a dû bosser peut-être déjà 6 ou 7 fois, donc 6 ou 7 semaines avant qu'elle me dise ça. Et c'est pas tant, ouais, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc, et puis je lui ai dit, non, c'est... elle toussait, mais c'était pas, tu sais, bon. Et puis un jour, elle me dit, bon, Jean-Baptiste, je te le dis maintenant, parce que peut-être falloir qu'on révise un petit peu nos objectifs, mais voilà, je suis allé voir le médecin la dernière fois, il s'est passé ci, s'est passé ça, boum, j'ai un cancer. Ah oui, d'accord, bonjour. On fait comment dans ces cas-là? Donc, petit malaise. Et ma position a été de dire qu'il y avait 2 options. Soit on continuait de bosser sans faire comme si de rien n'était, et puis y a des semaines où elle va en chimio, donc on se voit pas, et puis il y a d'autres semaines où elle est là, et puis on se voit selon ce que son énergie lui laisse. Soit on bosse spécifiquement ce sujet, et puis le jour où on peut rattraper les wagons du début de l'accompagnement, on s'y remet. Et donc évidemment, elle a choisi la 2e option. Et c'est très particulier de vivre de l'intérieur comment une chef d'entreprise se dit « Ok, peut-être que dans 6 mois, je suis plus là. Comment je fais pour laisser les affaires de l'entreprise en ordre étant donné que j'ai pas le temps ?» C'est là, le coup, c'est même plus « Ouais, je verrai dans 2 semaines ou quoi. » C'est voilà, je suis au bord du précipice. C'est un peu une image con, mais j'ai le moins de temps possible pour à la fois... régler les affaires courantes, faire en sorte que la boîte elle tourne si jamais je dois disparaître demain, et d'aller essayer de me soigner et de faire en sorte que ça aille mieux quand même d'ici 6 mois. Et donc forcément la perspective de l'intérieur, c'est de dire comment est-ce que t'es le plus délicat possible, comment est-ce que tu es le plus à la fois discret et sérieux possible par rapport à ces questions-là, parce que là tout de suite on va attaquer des sujets beaucoup plus profonds que ceux que j'ai l'habitude de voir avec mes clients. La bonne nouvelle, c'est que elle est en rémission aujourd'hui. Donc ça, c'est chouette. Mais c'est très particulier que de te dire, tiens, t'as pris un virage là. C'était pas du tout prévu au départ. Et finalement, je suis assez fier de, à la fois de la manière dont on a amorcé ce virage. Et de me dire que même dans une situation aussi complexe et dramatique, j'ai apporté une petite différence. C'est-à-dire, à partir du moment où t'as rangé tes photos, t'as fait ceci, t'as fait cela, enfin, il y a eu toute une discussion sur la vie de famille, sur ce qu'on laisse à la fois aux collaborateurs au boulot et sur ce qu'on laisse à la maison avec la famille. Et finalement, ce sont des questions qui vont me rester dans mon bagage professionnel, à me dire est-ce qu'à un moment donné ça peut avoir une pertinence d'avoir ce type de discussion avec des chefs d'entreprise qui sont un peu plus âgés ou qui sont en train de se dire ok, ça veut dire quoi vendre une entreprise, enfin c'est des questions qui sont vraiment vraiment chouettes et c'était une première fois assez intense.
Ouais,
et
puis j'imagine que t'as eu cette délicatesse pour bien prendre ce virage-là avec cette personne-là. Et j'allais te poser la question justement par rapport à ce que tu viens de dire sur les questions que peuvent se poser certains chefs d'entreprise arrivés à un certain âge justement pour savoir comment ils vont revendre, comment ils vont déléguer leur bébé entre guillemets. T'as une mission aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les dirigeants et les indépendants ils puissent notamment profiter un petit peu plus de la vie et moins subir aujourd'hui ce quotidien qu'on s'amorce nous-mêmes. Hein. C'est pas forcément des choses qui nous tombent sur la tête. Il y a des priorités qui nous tombent sur la tête, c'est à nous de savoir si on les gère ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est quand tu dis cette phrase « je n'ai pas le temps », on dit tous cette phrase-là. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ma question par rapport à justement cette situation-là, qui n'était pas prévue au programme, du coup avec cette dame que tu as accompagnée dans son concert, est-ce que tu as revu un peu ton positionnement ? Tu accompagnes les gens dans la gestion du temps. Ok, est-ce que cette histoire a encore plus accentué ta volonté du coup de bien faire ? J'imagine que oui, parce que te connaissant un minimum, mais je ne sais pas si je vais être très clair dans ma question, c'est est-ce que du coup, c'est toi encore prendre plus conscience de soulever des problèmes bien plus importants, par exemple d'aller voir un dirigeant, d'être un peu radical. Bon, écoutez, monsieur, attendez pas d'avoir un cancer pour agir. J'exagère, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que ça t'a donné encore plus envie de creuser sur cette partie-là pour vraiment faire prendre conscience aux gens qu'il fallait gérer son temps ?
Ce qu'il y a d'assez extraordinaire dans mon métier, c'est que on pourrait penser que les problématiques sont les mêmes. Si tu veux, c'est comme si t'allais au supermarché et que tu prenais une bouteille de coca. Donc toutes les bouteilles de coca sont les mêmes, hein, physiquement. Mais qu'à l'intérieur, le coca avait un petit parfum un tout petit peu différent à chaque fois. Ce qui fait qu'à chaque fois que tu prends une bouteille, c'est une nouvelle expérience. C'est exactement la même chose. Tous mes clients sont des bouteilles de coca, mais à l'intérieur, c'est pas le coca qu'on connaît. Et donc, à chaque fois, tu réinventes un petit peu la manière dont tu vas apprécier le contenu. Je suis pas en train de dénigrer mes clients et de dire que ce sont des bouteilles de coca, mais
si vous écoutez, bien sûr, j'espère qu'on aura vos retours en commentaire, n'hésitez pas.
Non, mais et donc, à chaque fois que je rencontre une nouvelle situation, oui, ça alimente, je pense, la qualité et la finesse de la manière dont je vais accompagner le suivant. Alors, il y a des fois où je me loupe parce que j'ai des oublis, parce que je fais pas la connexion tout de suite, etc. Mais c'est ce qui m'oblige aussi à une forme de formation continue sur l'accompagnement humain, sur ce que c'est que l'analyse transactionnelle, sur ce que sont les thérapies à réponse brève, etc. Et c'est pas anodin. Par rapport à ce que font beaucoup de professionnels, qui est de dire, moi aujourd'hui je vais vous proposer un accompagnement en 10 séances, séance 1 on fait ça, séance 2 on fait ça, séance 3 on fait ça, séance 4 on fait ça, et c'est au client de s'y adapter. Ces méthodes-là fonctionnent a priori, en tout cas elles fonctionnent du point de vue de la personne qui les donne, mais le client, quand il doit s'adapter à un contenu prédéfini, on peut être à peu près sûr qu'il y a des trois quarts de ce qu'il devait faire dans son intérêt ne seront pas faits parce que c'est à lui de faire l'effort de s'y adapter. Et c'est ça qui est dommage aujourd'hui. Et c'est exactement ça que je ne veux pas reproduire. Donc c'est pour ça que je veux autant que possible m'alimenter de ces différentes expériences pour me dire « Ok, j'ai une pierre supplémentaire à apporter à l'édifice du client suivant. » Et ça, c'est chouette. Enfin, ça me botte bien.
Une expérience supplémentaire, oui. T'as pas envie de revivre, entre guillemets, les mêmes choses. Et puis, t'as aussi envie, je pense, d'évoluer et pas de faire ça pendant des années. Enfin, faire ça pendant des années, j'imagine que oui. Mais ce que je veux dire, faire ça avec toujours les mêmes profils et avoir un petit peu des bouteilles de coca différentes, si j'ai bien compris.
C'est ça.
Ça va, j'ai un petit peu d'intelligence quand même, je comprends les choses, c'est cool. On aborde du coup cette cinquième première fois avec toi, où là on parle, voilà, un petit aboutissement, quelque chose de concret, c'est t'accompagnes tes clients, c'est cool, t'as de l'expérience sur le sujet, c'est la première fois que tu vas créer un e-book, la création de ton e-book justement. On va y venir, je pense que t'es très fier de ça, moi j'ai vu tes posts circuler aussi, tu disais « enfin, il est là !» Enfin tu sais, on sent, même si c'est que de l'écrit, qu'il y a, voilà, il y a quelque chose derrière, il y a un son, il y a quelque chose, c'est vivant. Moi j'adore ça justement quand l'entrepreneur, il est vraiment excité par son projet, ça s'est vraiment ressenti. Je pense que ça s'est ressenti aussi par rapport à tous les retours que tu as eu, aussi plutôt positifs des gens qui ont pu le voir, parce que tu as partagé justement les avis
plutôt
et commentaires.
Très positif.
Donc c'est très très cool. Oui, excuse-moi de minimiser un petit peu les choses. Parle-nous de ça, parle-nous de ton e-book, cette création, comment c'est venu l'idée de regrouper un petit peu ton expérience autour de ça, parce qu'il est quand même très complet, il y a des lois quand même très anciennes, tu as parlé du fait que c'est pas normal qu'aujourd'hui, en 2023 ou même en 2024, on soit encore à subir plutôt notre temps plutôt que de le gérer, alors que quand tu parles des années 1800, 1900, des lois de Parkinson, la loi de Pareto, où justement ces gens-là déjà avaient un petit peu cette vision, même s'il y avait des gens encore plus antérieurs qu'eux, pour bien gérer le temps. Comment c'est venu cette création? Comment c'est venu cette idée? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la production, de tout? Dis-nous tout.
Je vais avoir quelques prémices. J'avais eu une première expérience de rédaction d'un livre. Cherchez-le pas, vous le trouverez pas, c'est pas la peine, parce qu'il est sous un nom de plume. Mais j'ai voulu éditer un petit roman il y a un peu plus de 10 ans, et évidemment ça avait, enfin, c'est pas que ça avait floppé, c'est que j'ai bataillé pour trouver un éditeur, j'en ai trouvé aucun, donc je l'ai édité à compte d'auteur un peu foireux, etc. Bon, ça a été une énorme déception, et donc il y avait un peu ce syndrome de plus jamais, voilà, ça, tu jettes la cape sur la gueule du gars à la sortie. Et la deuxième prémisse, c'était que Je suis un farouche opposant aux livres de développement personnel. Parce que, exactement pour ce que j'ai dit tout à l'heure à propos des prestataires de services qui te disent « Alors, jour 1, tu fais ça, jour 2, tu fais ça, jour 3, tu fais ça », dans les livres de développement personnel, je dis toujours « C'est cool, à la fin, le mec, il est millionnaire, t'es content pour lui, mais tu sais pas comment faire pour toi aussi devenir millionnaire. » Parce qu'il t'a donné toute sa recette à lui, mais adapter ta vie à sa recette, c'est impossible. C'est pour ça que les livres de développement personnel, ils s'en vendent 2 millions, mais t'as pas 2 millions de millionnaires à la fin. C'est aussi simple que ça. Donc je suis un peu fâché avec les livres de développement personnel. J'en lis pour ma culture personnelle, mais juste pour voir que, bah non, ça peut pas marcher. Bon. Et donc, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais ce serait bien que t'écrives un bouquin sur le temps, c'est bien, tu t'y connais, etc., etc. Je dis, jamais. Enfin, voilà. Avec le grand théâtral. Et puis bon, comme je suis un peu taquin et que des fois j'aime bien me faire des blagues à moi-même, je me suis dit, bah si, je vais écrire ce bouquin, mais en disant dès la première page, et tu pourras le confirmer, qu'il n'y a pas de solution dans ce bouquin. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu lis ce bouquin que ça y est, ta vie va être transformée. Mais au moins, je suis honnête dès le début.
C'est ça que j'aime bien. C'est ça que j'ai aimé. Non, mais c'est vrai. Mais c'est ce que je dis souvent à mes clients.
Je te parle de toute la théorie. À la fin, tu auras toute la théorie dans tes mains, tu auras lu toute la théorie, mais ça ne va rien changer à ta vie tant que tu ne te mets pas en action concrètement. Et je t'explique d'ailleurs dans le bouquin comment faire pour te mettre en action concrètement, en venant voir des gens comme moi. Donc c'est, ok, d'accord, c'est un peu d'autopromo, mais c'est quand même sur ce pan-là que j'ai voulu écrire le truc. Alors ça, c'était début 2023 que l'idée me vient. Et y a une personne que j'affectionne beaucoup qui s'appelle Marceline Arthuis, que vous pouvez aussi trouver sur LinkedIn, qui est coach santé, qui me dit « Bon, Jean-Baptiste, je voudrais que tu lises mon e-book à moi, parce que je veux m'en servir de lead magnet pour que les gens achètent mon bootcamp. » Donc elle l'offrait. Et donc je lis le book de Marceline, et puis je lui dis « Ok, ton truc est très bien, voilà ce que tu peux changer, etc. etc. » Et puis en retour d'ascenseur, je dis à Marceline « Écoute, tu m'as mis le pied à l'étrier de mon projet, donc je te propose de relire au fil de l'eau ce que j'écris, et tu me dis quand ça va, et tu me dis quand ça va pas. » Et donc Marceline a lu chacune des parties les unes derrière les autres à mesure que je les écrivais. C'est elle qui m'a dit « Non mais attends, ta mise en page, elle est naze à chier, donc la deuxième version que vous avez aujourd'hui n'est pas la première que vous auriez eue si jamais elle ne m'avait rien dit. »
C'est grâce à elle qu'on a un truc sexy, ok.
C'est grâce à elle qu'on a un truc sexy. Et l'idée, je reviens à la toute première expérience où ça a été une catastrophe de trouver un éditeur, etc., etc. C'était justement d'être le maître absolu de la production de ce book-là. C'est-à-dire que je ne voulais pas que qui que ce soit, autre que quand je le demande ouvertement, évidemment, que qui que ce soit me dise « Ah oui, mais ça va pas, et puis ça, il faut faire ça comme ça, et puis ça, il faut le mettre là, et ça, il faut l'enlever. » Donc ma solution, ça a été de publier ça sous format e-book, c'est-à-dire sous format PDF, que j'ai mis en 16/9 volontairement, c'est-à-dire adapté à un écran d'ordinateur et non pas en 9/16, c'est-à-dire moche sur un écran d'ordi. Je me suis dit, quitte à me faire plaisir, eh ben, je vais faire moi-même mes illustrations, et j'ai J'ai explosé les serveurs de Midjourney pour avoir toutes les illustrations que je voulais sur ce book. Et en 3 mois, j'ai fini d'écrire le truc. J'ai demandé à Caroline Vautrin, qui est une correctrice de talent, qui est sollicitée aussi par des gens comme Juliette Cadeau, par exemple. Enfin voilà, c'est une vraie correctrice de talent, Caroline Vautrin, de relire et de me faire part de toutes les petites fautes que j'ai faites. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui le produit final il est aussi qualitatif. C'est que à la fois il est exactement comme je le voulais et que les gens qui ont contribué à sa confection, c'est le bon mot, sont des gens de talent. Et voilà.
Sur un pourcentage entre 0 et 100, tu es satisfait à combien de cet e-book ?
Alors, de l'e-book en soi, je suis satisfait à 100%.
Ok. Ah, il y a des choses qui auraient pu être mieux faites ?
Ouais, j'ai beaucoup de mal à en faire la promo. Et le pendant de cette bonne nouvelle, c'est que maintenant qu'il existe et que maintenant qu'il est accessible, tout le monde y a accès, donc que ce soit aujourd'hui ou dans 50 ans, le produit il existe, quoi. Et c'est vrai que j'ai pas parlé de ça. Y a une toute petite partie dont je me suis occupé aussi tout seul, c'est de la protection intellectuelle du bousin, parce que c'est quelque chose, je pense, que beaucoup de créateurs ne font pas. Ça coûte un peu d'argent, mais sauf que ça vaut le coup. C'est-à-dire que quand vous faites un e-book sur comment développer tel truc et que vous ne protégez pas vos écrits, les gens peuvent se saisir de ces écrits et se les approprier eux-mêmes, ce qui est un petit peu vexant.
Ils effacent Jean-Baptiste Baron et ils mettent un autre prénom, un autre nom. Okay.
C'est... Quand les gens sont très 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 mesquins, ils peuvent même faire croire à Google que c'est bien eux qui les ont écrits et pas toi, et que c'est toi qui les a volés. Donc ça peut prendre des proportions assez folles. Alors évidemment, on n'en est jamais à ce degré de dinguerie pour des petits e-books qui n'ont pas beaucoup de... comment dire, de visibilité. C'est-à-dire, on compare pas un e-book business à des livres qu'on trouve en librairie sans arrêt, mais c'est quand même hyper important de protéger ses écrits. C'est pas comme des posts qui disparaissent du jour au lendemain. Là, c'est votre propriété intellectuelle et il faut la protéger.
Ouais, c'est bien que tu soulignes cette partie-là, parce que justement, beaucoup sont dans la création, mais pensent pas, ou dans la production, mais pensent pas justement toutes les choses à côté, quoi. L'huissier aussi dont tu as parlé dans la première fois avec ce client qui ne te payait pas. Enfin, c'est vraiment important. C'est bien d'avoir des idées, c'est bien de faire des choses, mais voilà, le fond, il est cool. On a une valeur ajoutée. Maintenant, il faut faire attention aussi à la forme. Donc, très content de cet e-book, effectivement. Mais voilà, niveau commercialisation, en tout cas marketing, tu penses que c'est des choses que tu aurais pu améliorer, si je comprends bien.
C'est des choses qu'on apprend sur le tas aussi.
Ok. Un deuxième e-book en production ?
Ouais. Bon. J'ai pas trop. Je suis très mono sujet, donc maintenant un deuxième e-book, il faudra que ce soit sur un autre sujet. Donc je peux faire un e-book sur les tutus en macramé, mais je suis pas sûr que ça passionne beaucoup.
On sait jamais. Hein. On sait jamais. Jean-Baptiste, un grand merci pour toi, ta personnalité, tes réponses. J'espère que ça vous a plu aussi. Moi, je pense que oui, en tout cas. J'ai beaucoup aimé, en tout cas, justement, cette transparence que tu as par rapport à ses clients, ses premières fois. C'est pas forcément évident. On remarque pas mal d'erreurs. Quand je dis pas mal d'erreurs, c'est pas péjoratif. Mais
non,
t'en parles justement avec spontanéité, avec franchise, et j'aime beaucoup parce que justement, on est là pour dire un petit peu la vérité et les coulisses un petit peu de l'entrepreneuriat, donc c'est plutôt chouette. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre sur les plateformes, hein, Apple Podcasts, Spotify ou autres, où on écoutera cet épisode, un petit 5 étoiles et puis un petit commentaire aussi pour soutenir les entrepreneurs, et là en l'occurrence Jean-Baptiste, donc ça nous donnera de la force et on montera dans le classement. Dernière question avant qu'on se quitte, Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu conseillerais justement à une personne qui nous écoute, qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat, qui n'a pas forcément d'expérience, qui a une volonté justement de changer le monde comme toi, mais qui n'a pas forcément tous les codes dont on parlait tout à l'heure. C'est quoi que tu lui conseillerais aujourd'hui ?
C'est un conseil extrêmement classique, mais qui vaut toujours. À partir du moment où tu t'es déterminé un objectif, tu ne lâches rien. C'est aussi simple que ça. Il y a une nuance. C'est-à-dire que si au moment de la mise en place de ton objectif, tu te rends compte qu'il y a un mur, ne fonce pas tête baissée dedans. Trouve un moyen intelligent de contourner le mur.
C'est ça la question. C'est ça fait 6 mois, 1 an, 3 ans, je persévère. Tu parles de cette notion du mur, justement. À quel moment on sent que ce mur, c'est un mur qu'on ne peut pas bouger parce qu'on n'est pas sur la bonne direction? Et à quel moment on sent qu'il... faut pas lâcher, on est fatigué, ça fait déjà 1 an, 2 ans qu'on trime, on sent que ça va payer, mais à quel moment on fait cette distinction justement entre c'est le mur qu'il ne faut absolument pas franchir parce qu'on n'est pas dans la bonne direction et c'est le mur où il faut vraiment s'accrocher parce qu'à un moment donné ça va péter.
Pour moi, la distinction, elle est à faire entre les moyens et les objectifs. Je suis désolé de revenir encore sur les mêmes mots, mais les objectifs ne se changent pas d'un jour à l'autre. Par contre, si ce sont les moyens que tu utilises qui font que tu te manges le mur, ce sont ces moyens-là qu'il faut changer.
Très bon, j'aime beaucoup. Et j'espère que vous avez aussi apprécié ces conseils-là. Jean-Baptiste, encore une fois, un grand merci d'avoir joué au jeu des premières fois dans l'entrepreneuriat. C'était un vrai plaisir.
Merci à toi, Alexandre.
Tu reviendras si je t'invite ?
Bien sûr, avec plaisir.
Bon.
Demain.
Ok, demain, un dimanche, un lundi, peu importe. En tout cas, on sera là. Merci à toutes et à tous d'écouter et d'être de plus en plus nombreux, en tout cas dans le podcast, mes premières fois dans l'entrepreneuriat. Et moi, je vous dis à très vite avec un nouvel invité pour un nouvel épisode. Merci à tous, à bientôt. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur.